Christian Bibolet, on est vraiment content que tu sois là. Alors, qui est Christian? Alors, nous, on le connaît depuis longtemps. Christian est en fait, il est aujourd'hui responsable du groupe de travail sur l'islam. Ce groupe de travail qui est créé par le réseau évangélique à Genève. Donc, c'est un petit peu le spécialiste de l'islam pour le réseau évangélique, donc pour beaucoup d'églises évangéliques à Genève. L'autre chose, si je ne me trompe pas, Christian, je viens de lire, ou je suis en train de lire, ce fascicule qui a été donné aux politiciens suisses sur les minarets. C'est toi qui l'as écrit, non? Voilà, donc il a aussi écrit un fascicule au nom du réseau évangélique sur si la Suisse devrait autoriser les minarets ou pas pour les mosquées. Donc c'est vraiment un sujet que toi, tu as beaucoup recherché, et donc ce fascicule est très, très bien fait. Et Christian a à cœur, donc c'est vraiment son motif, c'est de comprendre bien sûr l'islam et de pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux musulmans. Donc il n'est pas d'origine musulmane, et donc bien sûr ce qui va nous apporter est très différent de ce que Marc Gabriel nous aurait apporté du fait que lui est un musulman qui s'est converti à Jésus-Christ. Donc c'est très différent, mais on pense que vraiment c'est le Seigneur qui t'a conduit et qui est avec nous ce matin. Donc il m'a demandé de lire un texte, je vous invite à prendre vos Bibles, on va les lire. Actes chapitre 10, donc le livre des Actes, et au chapitre 10, le verset 24, et j'aimerais lire ces quelques versets qui seront à la base apparemment du message de Christian Bibolet. Alors, Actes chapitre 10, en premier au verset 24. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Cornée les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Et au verset 34, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Voilà, nous allons nous arrêter là, je vais prier. Seigneur, merci pour Christian qui est ici ce matin, et nous te demandons, Seigneur, de lui donner les paroles qui sont les tiennes. Seigneur, que vraiment tu puisses utiliser ce frère, ce matin, pour nous parler. Nous te remercions dans ta souveraineté que tu as autorisé que Marc et Gabriel ne viennent pas, mais que Christian soit ici. Seigneur, nous croyons qu'il n'y a pas de chance, mais que dans ta souveraineté parfaite et ta providence, tu l'as permis ainsi. Seigneur, tu connais chacun de nous, nos besoins, nos interrogations, nos questions. Tu sais où nous en sommes. Il n'y a que toi qui peux, par ton Saint-Esprit, parler à chacun de nos cœurs. Fais ton travail maintenant, je te le demande, au travers de ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bonjour à tous. Alors, je me présente, le joker de Dieu, en quelque sorte. Moi, je ne m'attendais pas à être un joker ce matin, franchement. Moi, je venais pour écouter Marc Gabriel. Alors, j'espère que votre déception ne sera pas trop grande. Vous savez, les musulmans qui aiment Dieu, qui aiment Allah, et qui sont fiers de leur prophète, Mohammed, ils ont envie de partager leur foi. Ils ont envie de vous faire partager leur confiance, leur amour en Allah, oui, ils voudraient vous voir devenir musulmans, et c'est tout à fait normal. Et il se trouve que nous, chrétiens, nous avons le même désir par rapport à Jésus. Nous voudrions faire connaître Jésus aux musulmans. Néanmoins, lorsqu'on essaye de faire connaître Jésus aux musulmans, ou en tout cas lorsqu'on y pense, on rencontre quelques difficultés. Enfin, je ne sais pas si vous êtes dans cette catégorie de gens qui ressentent quelques difficultés quand vous pensez à l'idée de partager l'évangile avec des musulmans autour de vous. Moi, je vous suggère qu'il y a deux barrières très importantes qui nous retiennent dans ce partage de la bonne nouvelle de Jésus avec les musulmans. D'abord, il y a une barrière qui se trouve de notre côté. Et cette barrière, ça peut être notre propre vie spirituelle qui est beaucoup centrée sur elle, qui cherche la bénédiction. Et notre vie d'église, elle peut être aussi comme ça. Hein. On peut être préoccupé par la couleur des murs, la couleur de la moquette, ce qu'il faut renouveler, organiser telle et telle chose. Et on est tout concentré sur soi ou sur sa vie d'église. Et ça, c'est déjà un blocage. Et souvent, ce blocage, il est renforcé par toutes sortes de préjugés que nous avons vis-à-vis des cultures musulmanes, que ce soit la culture d'Afrique du Nord, la culture turque, bosniaque et l'Albanie ou du Moyen-Orient. Donc, vous voyez, il y a déjà une solide barrière de notre côté. Malheureusement, il y en a une autre. Et cette barrière, eh bien, c'est la conception souvent très négative que les musulmans ont du christianisme. Je ne dis pas de Jésus. Les musulmans sont très respectueux de Jésus. Mais le christianisme, ça leur rappelle trop de mauvais souvenirs. Et ça, ça constitue une barrière qui est elle aussi renforcée par tout ce qu'ils ressentent vis-à-vis de l'Occident aujourd'hui, qu'ils voient comme un agresseur, comme celui qui humilie régulièrement les pays arabes. Donc nous avons deux solides barrières à franchir. Et c'est là que l'histoire de Pierre devient extrêmement intéressante. Parce que lui aussi, il était séparé des non-juifs par une solide barrière, celle de tous les préjugés que les juifs avaient vis-à-vis des non-juifs. Et puis, cette barrière était renforcée par toutes les craintes qui venaient s'ajouter aux interdits qui étaient prononcés d'avoir des contacts avec les non-juifs. Et dans l'histoire que nous avons lue, eh bien, on se rend compte que Pierre est l'objet d'une grâce de Dieu. Dieu le touche, particulièrement avec cette expérience de la nappe. Vous vous souvenez, on n'a pas lu tout le passage. Et Pierre, finalement, est convaincu qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en lui. Mais, comme je l'ai dit, Pierre n'est pas le seul à être touché par la grâce de Dieu. Corneille aussi, il a été touché par la grâce de Dieu parce que Dieu lui a envoyé un ange. Et cet ange lui a dit: écoute, je vois tes aumônes, Dieu voit ton désir sincère de connaître Dieu. Eh bien, envoie chercher Pierre, qui est à Césarée. Et le résultat de tout cela, c'est que ces deux hommes, qui humainement parlant, n'auraient eu absolument aucune chance de se rencontrer, parce qu'ils n'avaient absolument aucun désir de se rencontrer, eh bien, ces deux hommes ont eu le désir d'aller l'un vers l'autre. Et donc Corneille a envoyé chercher Pierre, et Pierre a été d'accord d'aller chez Corneille. Et vous voyez ce que ça nous apprend, cela? Ça nous apprend que lorsque nous pensons, ou lorsque nous parlons de partager l'évangile avec les gens autour de nous, ou avec les musulmans, on doit comprendre qu'on entre dans une œuvre dans laquelle Dieu est souverain, et dans laquelle Dieu nous a précédés. Et je crois aujourd'hui qu'il y a des signes qui montrent qu'il y a un nombre croissant de chrétiens dont Dieu est en train de préparer le cœur à partager l'évangile avec les musulmans, et qu'il y a un nombre croissant de musulmans dans le monde dont le cœur s'ouvre à la bonne nouvelle de Jésus. Et ça, c'est extrêmement encourageant. C'est pas nous qui devons forcer cela. Nous entrons dans ce que Dieu est en train d'accomplir dans le monde. Donc là, il y a une première chose qui est claire. Dieu est à l'œuvre. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut souligner, c'est que nous, néanmoins, nous avons une responsabilité. C'est celle d'aller à la rencontre des gens, d'aller à la rencontre des musulmans, comme Pierre est allé à la rencontre de Corneille. Et à ce sujet-là, j'aimerais aborder deux grandes questions. Avant d'aller à la rencontre des musulmans, il faudrait quand même les comprendre un petit peu mieux et se demander comment est-ce qu'ils se perçoivent eux-mêmes aujourd'hui, en particulier quand ils vivent en Europe. Ça sera la première grande question que je vais aborder maintenant. Comment est-ce qu'ils se perçoivent? Je dirais, ils se perçoivent avec un mélange de fierté et aussi avec une certaine dose de frustration. Pourquoi est-ce qu'ils ont une certaine fierté? Parce que l'islam a un passé glorieux. À partir du 7e siècle, l'islam a connu une expansion assez rapide. Vous savez que l'islam est né dans la péninsule arabie, c'est-à-dire l'Arabie saoudite actuelle. C'est là que Mohammed a commencé de prêcher en 620. Et l'islam, après sa mort, s'est rapidement répandu dans toute la péninsule arabique. Et puis, en direction de l'Est, ben, jusqu'en Inde, certains disent que les musulmans sont allés jusqu'en Chine. Et du côté ouest, l'islam s'est répandu sur toute la côte nord-africaine. Les musulmans sont montés en Espagne, ils ont franchi les Pyrénées, ils sont même entrés jusqu'en France. Où là, en 732, on dit que Charles Martel les a arrêtés. Et les musulmans, finalement, se sont surtout installés en Espagne, où ils sont restés plus de 7 siècles. Donc, vous comprenez que la culture espagnole est fortement imprégnée par les valeurs de l'islam. Et là, disons, dans cette période-là, la conquête de l'islam a été relativement musclée pendant ce premier siècle. Ce qu'il faut réaliser, c'est que l'islam amène une nouvelle civilisation. Et qu'est-ce qui caractérise cette civilisation? Eh bien, d'Asie centrale à l'Europe occidentale, tous les territoires qui sont passés sous leur juridiction utilisent la même monnaie, par exemple. Ce qui donc indique un certain niveau d'organisation. Le commerce entre l'Est et l'Ouest est florissant. Il y a toutes sortes de nouveaux produits qui arrivent en Occident, à travers les commerçants, comme le coton, le riz, le sucre de canne, les citrons, tout ce que vous trouvez très normal de trouver aujourd'hui à la coopérative, à la Coopère, hein. Mais ce sont les commerçants arabes qui nous ont fait connaître cela. Et puis des villes telles que Cordoue en Espagne, Fès au Maroc, Tunis, Le Caire, Damas, Bagdad deviennent de grands centres de vie commerciale, mais aussi de vie intellectuelle. Cordoue a été un grand centre intellectuel pendant la période du Moyen-Âge. L'Empire musulman puise beaucoup dans la science et la philosophie grecque. Il importe de Chine la technique de la fabrication du papier. Il développe aussi une architecture monumentale dont on a encore les témoignages aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils construisent de grands palais, de grandes mosquées. Donc on peut dire en résumé, l'islam donne jour à une civilisation qui est extrêmement dynamique et qui est guidée par une certaine vision du monde que donne le Coran. Et quelles sont quelques-unes des caractéristiques de cet islam qui soutient cette nouvelle civilisation? Eh bien, l'islam de l'époque, il se caractérise par une très grande confiance en lui parce que ses armées sont régulièrement victorieuses sur les champs de bataille. C'est un islam qui est intellectuellement encore assez ouvert parce qu'il est ouvert à la philosophie, ce qui ne sera plus le cas plus tard. Il est disposé à reconnaître la vérité où elle se trouve. Il y a donc une grande curiosité, une grande ouverture d'esprit. Et là, j'aimerais vous lire juste une citation d'un auteur qui dit « Pendant le Moyen-Âge, les Sarrasins furent presque les seuls dépositaires de la connaissance scientifique dans le monde, alors que les nations occidentales étaient trop ignorantes pour comprendre la valeur des trésors de l'Antiquité. Les Sarrasins les ont conservés en traduisant les œuvres scientifiques des Grecs. » Donc, à la Renaissance, lorsqu'on redécouvrira Aristote et tous les grands auteurs grecs, ce sera à travers des traductions de l'arabe, souvent. Ou en tout cas, à cause du fait que les Arabes ont souvent été dépositaires de cette connaissance pendant plusieurs siècles. L'islam de cette époque se montre aussi encore relativement tolérant vis-à-vis des non-musulmans. Les juifs et les chrétiens travaillent souvent au service des musulmans. Ils sont soumis à l'impôt. Bon, ils ont le statut de dhimmi, hein. C'est pas un statut idéal, mais c'est pas encore ce que ça deviendra plus tard. Ils sont soumis à l'impôt. Ils peuvent généralement pratiquer leur religion. Cet islam aussi se caractérise par une grande simplicité. Et il faut comprendre ce qu'on entend par là. Vous savez, la confession de foi de l'islam est très simple. Il s'agit de croire qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Si vous croyez cela sincèrement et si vous le déclarez devant 2 ou 3 témoins, vous êtes musulman. Et ça, c'était beaucoup plus accessible que certains des thèmes théologiques qui ont été sur lesquels l'Église a dû réfléchir pendant les premiers siècles. Vous savez, par exemple, la question de la divinité et de l'humanité de Jésus, c'est un sujet qui était très difficile et qui a suscité beaucoup de tensions au sein de l'Église. Et ça, c'était des sujets vis-à-vis desquels beaucoup de gens se sentaient complètement perdus. Donc l'islam est simple, il n'est pas exigeant. Ça le rend très attractif. C'est-à-dire la conversion à l'islam ne demande pas de grands changements intérieurs. Les peuples, par exemple, beaucoup des peuples qui embrassent l'islam peuvent conserver leurs croyances animistes pour les autres aspects de la vie. Par exemple, qui épouser, comment se protéger d'une malédiction, comment rendre un champ fertile. Il y a toutes sortes de pratiques animistes. Et les gens n'avaient pas du tout besoin de renoncer à tout cela. Et c'est une religion qui s'est montrée aussi relativement généreuse vis-à-vis de ceux qui acceptaient d'embrasser l'islam, alors que les autres étaient taxés. Voilà donc, voilà un petit peu au plan culturel ce qui caractérise cet islam. Maintenant, comment est-ce que l'islam s'est répandu dans le monde? Quelles ont été les différentes étapes? Vous savez qu'après la mort de Mohammed, Mohammed est mort en 632, il a eu quatre successeurs qu'on appelle les califes, qui ont assuré l'ordre dans la communauté musulmane et sa croissance pendant 30 à 40 ans. Et ensuite, il y a eu une première dynastie, qui est la dynastie des Omeyyades, qui a duré à peu près une centaine d'années, suivie par la dynastie des Abbassides, qui a duré presque 500 ans. Et c'est pendant la dynastie des Abbassides que l'islam a vraiment atteint son âge d'or. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste dire un mot des croisades, parce que c'est un sujet extrêmement douloureux et très humiliant pour l'Église, souvent, pour les chrétiens. Qu'est-ce qui a déclenché les croisades? Les croisades, elles ont été voulues par Alexis Comnène, qui était un empereur byzantin. Et pourquoi? Parce que lorsque les Turcs ont pris la Palestine aux Arabes, ils ont interdit aux pèlerins chrétiens de venir sur les lieux saints en pèlerinage. Les chrétiens n'avaient plus le droit d'aller à Jérusalem ou à Bethléem, ce que les Arabes n'avaient jamais fait. Ils n'avaient jamais interdit les chrétiens de venir en pèlerinage. Et là, Alexis Comnène a considéré que cela était une menace inacceptable. Et alors il a sollicité les chrétiens d'Occident de lui fournir des soldats pour repartir à la conquête de la Palestine. Et en Occident, l'Église avait perdu beaucoup de sa crédibilité. Elle était un petit peu minée par la corruption de son clergé. Et à cette époque-là, donc aux environs de 1095, Urbain II a pensé que là, il y avait l'occasion de remoraliser l'Église et de lui redonner un objectif qui allait motiver les gens d'aller de l'avant. Et il a, au fond, proposé aux nombreux chevaliers de son époque qui passaient leur temps à guerroyer les uns contre les autres, au lieu de gaspiller leur force à lutter les uns contre les autres, à unir leurs forces pour aller en Palestine reconquérir les lieux saints. Et il a même promis à ceux qui accepteraient de se lancer dans cette aventure une indulgence plénière, c'est-à-dire, voilà, si tu pars la reconquête de la Palestine, tous tes péchés te seront pardonnés. Et il y a même des gens qui étaient des sommités de leur époque, comme Bernard de Clairvaux, qui était un grand mystique, un homme très respecté. Bernard de Clairvaux a dit ceci: les Juifs ont l'espoir d'être sauvés parce qu'un jour viendra où leurs yeux s'ouvriront et où ils se convertiront. Mais écoutez bien la suite. Il n'en est pas de même de l'islam. Les musulmans ne se convertiront jamais. Pour eux, il n'est qu'un langage, celui du glaive exterminateur. Ça, c'était la conception au Moyen-Âge. C'était la vision que l'Église ou que les chrétiens avaient des musulmans. Alors, c'est vrai que la première croisade, entre parenthèses, il y en a eu 9 sur 2 siècles, ça a été une longue histoire, les croisades, 9 sur 2 siècles. La première croisade, elle a effectivement permis de reconquérir Jérusalem, mais les croisades successives n'ont pas du tout permis d'assurer une présence permanente des chrétiens en Palestine. Et puis surtout, ce qui a été désastreux sur le long terme, c'est le souvenir absolument déplorable que les croisés ont laissé. Pas seulement aux Arabes, mais aux orthodoxes, parce que lors de la quatrième croisade, les croisés ont fait le sac de Constantinople, et puis ils ont laissé aussi un très mauvais souvenir aux communautés juives qui étaient établies le long du Rhin, qui ont été aussi agressées régulièrement par les croisés. Alors, je ferme maintenant cette parenthèse des croisades pour reprendre le cours de l'histoire. Il faut rappeler qu'au XIVe siècle, c'est maintenant l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'Empire turc, qui va prendre la relève de la dynastie abbasside. Et c'est l'Empire ottoman qui, à partir de ce moment-là, va devenir la force qui, dans le monde, propage ou représente l'islam. Et au cours de cette période de l'Empire ottoman, la tolérance à l'égard des chrétiens et des juifs va tourner à la discrimination active. Ça va devenir beaucoup plus dur. Les non-musulmans sont soumis à l'impôt, ils ne peuvent pas épouser de femmes musulmanes, ils ne peuvent pas agrandir leur église ou leur synagogue. Il y a vraiment un tour de vis qui est donné à l'époque de l'Empire ottoman. Au XVe siècle, la domination de l'Empire ottoman est quasi complète sur l'Afrique du Nord. Et au XVIe siècle, eh bien, les Ottomans peuvent regarder le monde avec une certaine satisfaction. Parce que, bon, c'est vrai que certains pays comme l'Espagne et la Sicile sont redevenus chrétiens. C'est vrai aussi que cet empire musulman, il est quand même scindé en deux groupes, c'est-à-dire les chiites qui sont minoritaires et les sunnites, mais enfin il y a quand même une scission importante. Et c'est vrai que nulle part, les gens ne pratiquent un islam vraiment pur. Mais disons, en dépit de ces quelques bémols, eh bien, le pouvoir de l'Empire ottoman est bien établi partout dans le monde. Ils ont conquis différentes régions d'Europe et ils ne sont pas du tout décidés à s'arrêter là. Ils ont conquis Constantinople, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie et ils voudraient aller plus loin. Et à cette époque-là, vous savez, aujourd'hui on parle de l'hyperpuissance américaine, ou en tout cas on en parlait il y a quelques années. L'hyperpuissance. Eh bien, l'Empire ottoman c'était ça. C'était l'hyperpuissance de l'époque. Tout le monde était terrifié devant les Ottomans. On les appelait la terreur du monde. Mais, il y a une chose que je voudrais dire encore, pour résumer, c'est que pendant à peu près 1000 ans, l'islam s'est répandu de manière quasi irrésistible dans toutes les directions. Et l'islam de cette époque a fait la synthèse de ce qu'il y avait de meilleur en termes de science et de civilisation. Et ça, c'est important de s'en souvenir. C'est ça qui fait la fierté des gens qui sont issus de la culture musulmane ou de la culture islamique. Mais à partir du XVIIe siècle, les choses vont commencer de changer. L'Empire ottoman commence de perdre sa suprématie. Et ce qui est intéressant, c'est que la cause de ce déclin n'est pas le christianisme en tant que tel. C'est plutôt imputable à ce qu'aujourd'hui on appelle la modernité. Une certaine manière de concevoir le monde. La modernité, elle est née avec la Renaissance et la Réforme. Et quelle est la caractéristique de la modernité? Elle insiste sur la raison de l'homme, elle a confiance en la raison de l'homme, et elle insiste sur l'indépendance de l'individu vis-à-vis de toute autorité, qu'elle soit religieuse en particulier. C'est pour ça que au XVIIe siècle, le mot d'ordre des philosophes des Lumières, ce sera que l'homme doit penser par lui-même, qu'il est arrivé à l'âge adulte, qu'il doit s'affranchir de l'autorité de l'Église. Donc c'est cette pensée-là qui, en Europe, commence de trouver son essor, qui va entraîner l'affaiblissement de l'Empire ottoman. Alors, à quoi est-ce qu'on assiste en Europe? On assiste à un accroissement de la population, une première chose. On découvre comment utiliser l'argent, le capital, au niveau de grandes entreprises. C'est le début de l'ère industrielle. Il y a toutes sortes d'innovations techniques. On voit apparaître aussi ce qu'on appelle en politique les États-nations, c'est-à-dire des pays qui se regroupent autour d'une certaine unité culturelle et qui ont un certain sens de leur avenir. La puissance est là, la puissance économique et militaire de ces États-nations va commencer de se manifester, surtout en Angleterre et en France, par une prise de contrôle de territoires qui autrefois appartenaient ou étaient sous domination ottomane. Alors j'aimerais juste vous donner quelques points de repère de ce déclin progressif de l'Empire ottoman. En 1683, l'Empire ottoman, donc la superpuissance de l'époque, fait le siège de Vienne en Autriche pour la seconde fois. La première fois, c'était à l'époque de Luther, en 1529. Et lors de ce siège, c'est vraiment une sorte de quitte ou double. S'ils réussissent à prendre Vienne, ils vont aller plus loin. Mais ils n'ont pas réussi à prendre Vienne. Ils ont été refoulés et les Ottomans ne reviendront jamais à hauteur de Vienne. C'est un premier signe du déclin de l'Empire ottoman. Et ce déclin, il va se poursuivre jusqu'au début du XXe siècle. Déclin qui va être en quelque sorte ratifié, reconnu en 1923 lorsque Atatürk, celui qu'on appelle le père de la nation turque, Atatürk prend une décision qui paraît complètement incompréhensible. Il déclare la Turquie république laïque. Vous vous rendez compte? Ce qui constituait le cœur de l'Empire ottoman s'est réduit à peu près ce qu'est la Turquie aujourd'hui, et il déclare « cela n'est pas un État religieux, c'est une république laïque ». Ça n'est pas arrivé comme ça par le caprice d'un homme, c'est simplement le résultat d'à peu près un siècle d'occidentalisation de l'Empire ottoman, ce qui fait que Atatürk a adopté certaines valeurs, certains systèmes de la France. Sauf erreur de ma part, la République turque s'est beaucoup inspirée du droit suisse, par exemple. Ils ont pris à droite et à gauche en Europe des choses qui leur paraissaient bonnes et ils ont créé cet État. Ce que je dois dire pour revenir un petit peu en arrière, c'est que à partir de 1830, le processus de colonisation commence. Par exemple, en France, ou plutôt les armées françaises débarquent en Afrique du Nord en 1830 et la colonisation de l'Algérie commence. Et puis ce sera suivi de la Tunisie, du Maroc, etc. Et l'Angleterre fait de la même chose au Moyen-Orient. Donc il y a l'affaiblissement de l'Empire ottoman amène le déploiement d'empires occidentaux, on pourrait dire, en quelque sorte, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et la situation s'est un petit peu renversée. Ce sont maintenant les Occidentaux qui deviennent la terreur du monde. Et vous pouvez vous imaginer que la disparition du califat turc, c'est-à-dire dans le monde arabe et bien sûr en Turquie, les Turcs ne sont pas des Arabes, hein, mais il y avait la notion, voilà, ça représente l'islam, ce grand empire, ça nous représente. Et donc, il y avait un sentiment de force et d'existence. Et lorsque le califat a été aboli, tout le monde arabe est passé par un temps de crise, par un sentiment que leur société était en train de s'effondrer, que tout s'effritait, que tout foutait le camp, comme on dit. Et vous pouvez comprendre l'émoi par lequel les peuples arabes sont passés à cette époque-là. Mais cette période, elle ne va pas durer trop longtemps, parce que déjà, dès après la Seconde Guerre mondiale, il y a un processus d'indépendance des pays arabes qui va se mettre en route. Vous savez que dans les années 50-60, beaucoup de pays, anciennes colonies, sont devenus indépendants. Et donc, il y a eu à ce moment-là, une sorte de bouffée d'espoir, une sorte d'enthousiasme dans les pays arabes en particulier. Malheureusement, cet enthousiasme il va vite être déçu. Parce que les partis nationalistes qui ont lutté pour obtenir l'indépendance vont se transformer en partis uniques, autoritaires, où les gens sont boulonnés et où le peuple a de moins en moins, de moins en moins voix au chapitre. Et la découverte du pétrole dans certains de ces États, bien sûr, va les rendre riches, mais ne va pas les rendre vraiment indépendants de l'Occident. Parce que c'est l'Occident qui va avoir la technologie pour exploiter. Et pendant longtemps, c'est l'Occident qui va dire « C'est moi qui fixe le prix du pétrole que je te paye. » Donc, il y avait toujours cette dépendance vis-à-vis de l'Occident. Ça s'est encore manifesté pendant la guerre du Golfe en 90-91, où là, l'Arabie Saoudite et les pays voisins et le Koweït ont fait appel aux États-Unis à cause de contrats qui avaient été passés avant. Tu me permets d'exploiter ton pétrole, et moi je t'assure la protection militaire. Ça, c'est l'accord qui a été passé entre les États-Unis et le roi d'Arabie Saoudite dans les années 40 après-guerre. Mais ce qui a été ressenti comme l'humiliation la plus grande par le monde arabe, c'est la défaite que l'armée israélienne a infligée à l'Égypte en 1967. Ça a été absolument tragique. Ça a été perçu comme une tragédie pour le monde arabe. Il faut comprendre pourquoi. Parce que après 14 siècles de contrôle sur Jérusalem, le monde arabe a dit « Nous avons perdu la ville de tous les prophètes ». Et ça a été un deuil tragique pour eux. Et un historien libanais dit ceci, la défaite de 1967 a été largement interprétée non seulement comme une défaite militaire, mais comme une forme de jugement moral. Si les Arabes ont été vaincus si rapidement, complètement et publiquement, ne serait-ce pas le signe qu'il y a quelque chose de pourri dans leur société et dans le système moral dont elles sont l'expression? Vous voyez, ça c'est rien de moins qu'une crise profonde, culturelle, morale, politique. Les musulmans se sont dit, mais comment est-ce qu'une telle chose a pu nous arriver, nous qui avons le vrai prophète, nous qui avons la meilleure des religions? Voyez donc ce qui préoccupe le monde arabe plus que toute autre chose, plus que les problèmes économiques et politiques, ce qui les préoccupe le plus, c'est ce processus d'occidentalisation qui est en route partout dans le monde, qu'ils voudraient bien arrêter et qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Et l'influence de ce processus d'occidentalisation, il se manifeste de toutes sortes de manières dans la culture, par la liberté que les gens réclament, par la démocratie qu'ils réclament, par l'accès à l'information, par des formes d'art très libérales. Alors pourquoi est-ce que ce processus d'occidentalisation, il provoque tellement de tensions dans le monde arabe ? Parce que dans les pays arabes, bien des gens modérés estiment que, d'abord, leur famille manifeste beaucoup plus de décence, d'équilibre, qu'elles sont beaucoup plus honorables que la majorité des familles en Occident, qu'elles vivent davantage dans la crainte de Dieu, que leurs filles sont beaucoup plus modestes, que leurs communautés sont beaucoup plus unies, et pour toutes ces raisons, bien des Arabes sont fiers de leur culture, sont fiers de sa générosité, sont fiers de son hospitalité, sont fiers du sens de l'honneur qu'ils ont. Mais vous voyez, pour eux, il y a quelque chose qui cloche, parce qu'ils disent « voilà ce que nous sommes, et regardez ce qui se passe en Occident ». Cet Occident qui a tourné le dos à la religion, cet Occident qui est sans Dieu. Et qu'est-ce qui fait cet Occident sans Dieu? C'est quand même lui qui exerce la plus grande influence militaire et économique dans le monde. C'est lui qui détient la technologie de pointe. C'est lui qui domine sur la scène internationale. Et cela s'est ressenti comme quelque chose de totalement incompréhensible et injuste et révoltant. La grande question que les musulmans se posent, c'est pourquoi la meilleure des religions est aujourd'hui la religion des perdants? Pourquoi est-ce que c'est la religion des peuples qui autrefois ont été si massivement colonisés? Pourquoi est-ce que c'est la religion de beaucoup de gens qui aujourd'hui sont humiliés, de peuples qui sont humiliés par la supériorité militaire de l'Occident, comme en Irak, comme en Palestine? Pourquoi est-ce que ces peuples sont humiliés souvent par l'incompétence de leurs propres dirigeants et le despotisme de leurs propres dirigeants? Pourquoi est-ce que c'est la religion qui domine dans ce que les sociologues appellent les espaces d'exclusion, c'est-à-dire les banlieues, les grandes banlieues des villes, les prisons, dans la masse des chômeurs? Pourquoi est-ce que c'est l'islam qui domine dans ces groupes de population? Alors bien sûr, vis-à-vis de cette situation, du côté arabe, du côté musulman au sens culturel du terme, il y a plusieurs réactions possibles. Il y a des gens qui disent la solution, c'est de devenir occidental, ou c'est de passer à l'Ouest. Et beaucoup viennent en Occident, beaucoup vont aux États-Unis, beaucoup vont au Canada ou en Australie. Ils passent à l'Ouest pour changer de vie radicalement. Et il y en a d'autres qui ont l'attitude exactement inverse, qui dans le monde politique constituent le groupe des islamistes, qui disent « Attention, la solution pour sortir de l'humiliation dans laquelle nous nous trouvons, c'est de retourner aux sources, c'est de retourner à la pratique de l'islam telle qu'il était vécu par le prophète. C'est parce que nous avons abandonné cet islam des origines que nous sommes dans la situation lamentable dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. » Vous voyez l'antagonisme très puissant qui existe au sein même du monde arabe et de l'ensemble du monde musulman. Alors, voilà, en quelques mots, évidemment, tout ce que j'ai dit là, c'est très schématique, et c'est possible qu'il y ait un musulman qui dise « Moi, je ne me reconnais pas très bien dans ce que tu dis ». C'est tout à fait possible. C'est une grande description générale de la situation. Mais vous comprenez peut-être un petit peu mieux maintenant ce que les musulmans peuvent ressentir vis-à-vis de l'Occident. Ils ont une certaine fierté à cause de leur passé, et en même temps, ils souffrent dans leur âme parce qu'ils se sentent méprisés. Ils se sentent attaqués par tout le monde. Voilà donc pour notre première question. Comment est-ce que les musulmans se perçoivent eux-mêmes? Maintenant, j'aimerais aborder une question beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple, avec laquelle qui sera probablement beaucoup plus familière pour vous. C'est... Comment dire aux musulmans que nous aimons Jésus? Comment le leur dire pour qu'ils soient touchés et pour qu'ils considèrent que, mais peut-être que Jésus, c'est aussi un prophète pour moi? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Premier principe, voilà, parlons simplement. Premier principe, c'est très important d'établir une relation vraiment humaine. Avec les Arabes, avec les gens qui se réclament de l'islam autour de nous. Une relation vraiment humaine. Vous savez quoi? Nous sommes descendants d'Adam et Ève. Eux comme nous. Nous avons des parents communs. Nous avons un Dieu commun. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant sur cette question-là, mais... nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons notre humanité en commun. Et j'aimerais vous dire une chose qui m'a beaucoup aidé. Quand vous avez des musulmans autour de vous, bénissez-les. Dans votre cœur, bénissez-les. Demandez à Dieu de leur faire du bien, de parler à leur cœur, de les encourager, de les attirer, de leur montrer la personne de Jésus. De rassurer leur cœur, prier Dieu de leur faire du bien. C'est très très important. Ça va vous rendre libre d'aller à leur rencontre. Vous pouvez très concrètement les aider dans leur intégration, en leur donnant un coup de main, en les aidant à apprendre le français, en aidant leurs enfants, en organisant des activités pour leurs enfants. Toutes sortes de choses vous pouvez faire. Une autre chose que vous pouvez faire pour établir de bonnes relations, offrez-leur l'hospitalité, si vous en avez la possibilité. Ou bien, peut-être encore mieux, peut-être encore plus important, acceptez leur hospitalité s'ils vous l'offrent. Ça sera un grand compliment, une forme profonde de respect que vous leur donnerez en acceptant leur hospitalité, en acceptant leur plat. Ça touchera beaucoup leur cœur. Acceptez leur hospitalité. Deuxième grande chose, instruisez-vous sur l'islam. C'est déjà une forme de respect pour les musulmans, de savoir ce qu'ils croient, pourquoi ils le croient. Et puis c'est aussi une nécessité pour vous, pour que vous compreniez que quand ils parlent de Dieu ou de Jésus ou de la Bible, il faut que vous compreniez ce que ça signifie pour eux. Parce que parfois, ça ne signifie pas exactement la même chose que pour nous. Mais au moins, il faut que vous puissiez les suivre dans leur raisonnement et dans leurs convictions. Parce que si vous êtes totalement ignorant de ce qu'ils croient, vous n'allez pas pouvoir marcher très loin avec eux. Vous n'allez pas pouvoir les accompagner dans leur recherche de Dieu et dans leur compréhension de Jésus. Et puis, troisième chose, donnez-leur des moyens de découvrir Jésus. Pour cela, il faut que votre amitié soit sincère. Il ne faut pas que vous soyez perçu comme quelqu'un qui fait justement du prosélytisme. Vous voyez ? Quelqu'un qui veut absolument... Voilà, qui a un tableau de chasse et puis qui met des croix sur son tableau de chasse. Il faut que vous soyez vrai dans votre amitié. Ça veut dire vous laissez les gens libres. Vous les aimez, vous les attirez. C'est-à-dire vous voulez gagner leur cœur, mais vous ne faites pas de pression sur eux. Ce sont des personnes respectables. Vous n'allez pas les manipuler pour les amener là où vous voulez. Ce n'est pas votre problème. Vous pouvez lui donner à cette personne la Bible à lire, la parole de Dieu. C'est un don précieux. La parole de Dieu, c'est un beau cadeau. Et un musulman, il va recevoir la parole de Dieu avec respect. Il va être touché. Beaucoup d'entre eux, peut-être certains diront non, ils ne veulent pas. Mais beaucoup seront touchés par un tel cadeau. Vous pouvez regarder le film Jésus avec un musulman. Ou lui donner le film Jésus pour qu'il découvre l'histoire de Jésus selon l'évangile de Luc. Vous pouvez prier pour lui ou pour elle. Ils ont des besoins, vous pouvez prier avec eux. Tu cherches du travail, tu es malade, tu as des parents au pays qui ont des problèmes. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu souhaites que nous prions ensemble? Je peux prier avec toi si tu veux. Et vous pouvez prier pour eux quand vous êtes chez eux. Encore une fois, que Dieu les bénisse, que Dieu leur apporte la lumière, l'amour, pour Dieu, pour Jésus. Et puis il y a une chose aussi dont vous devez être conscient. C'est ce qu'un musulman risque s'il accepte Jésus comme sauveur. Parce que un musulman qui quitte l'islam, il est sous une condamnation, sous la condamnation de la loi islamique qui dit qu'on ne peut pas se détourner de l'islam, qu'on n'a pas le droit de se détourner de l'islam. Et dans certains pays, la loi islamique, elle n'est pas appliquée par l'État. Certains pays musulmans n'appliquent pas la loi islamique strictement, mais des parents, eux, ils peuvent s'en charger. Donc il faut comprendre la difficulté, le danger, les pressions sous lesquelles les musulmans se trouvent quand ils commencent de s'intéresser à Jésus. Beaucoup d'entre eux, ça peut créer des situations très difficiles. Et il faut être sensible à cela. Je vous lis juste une petite citation qui, je trouve, résume bien l'attitude à avoir. Nous devons nous souvenir que c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens et les rend capables de croire en Christ. Notre rôle est d'aimer, de transmettre la bonne nouvelle du salut, de l'expliquer, de prier sans cesse et de laisser les résultats à Dieu. Voyez donc votre petit carnet avec les croix, vous oubliez. C'est réellement Dieu qui agit. Et Dieu, il a un tel amour pour les musulmans et pour nous tous. Il peut leur parler de manière inattendue, à travers des rêves, à travers toutes sortes de circonstances très particulières où ces personnes savent, ça c'est Dieu qui me parle. Il faut mettre toute notre confiance en Dieu, toute notre confiance en sa grâce, car il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour les racheter, pour les réconcilier avec lui, pour leur donner la vie éternelle, pour leur donner sa paix et son amour. J'aimerais juste terminer avec une histoire. C'est toujours bien de terminer avec une histoire qui est encourageante. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Aïcha, qui vivait en Algérie. Elle est actuellement dans une ville en France. Lorsqu'elle était ado, vive la plage, en bikini, vive le soleil, c'est beau la vie, on se réjouit beaucoup. Et puis devenue adulte, elle a commencé de se préoccuper. Elle a commencé à avoir des questions spirituelles. Elle a commencé de vouloir plaire à Dieu, puis elle a changé de style de vie. Et elle s'est mise à pratiquer l'islam. Et à cette époque-là, elle avait de très bons amis. Donc elle était en Algérie, elle avait de très bons amis qui étaient chrétiens. Mais elle les fréquentait régulièrement parce qu'elle les trouvait très ouverts, très accueillants. Elle a dit, elle les trouvait même presque trop gentils. Elle trouvait, ils pardonnent trop facilement. Ça c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils pardonnent si facilement? Et puis un jour, un de ses amis lui a rendu visite et lui a dit, écoute, Aïcha, toi t'es quasiment une femme sainte. Parce que tu es honnête, tu es hospitalière, tu fais tout pour plaire à Dieu, mais il te manque une chose. Alors Aïcha l'a bien écouté, hein. Il te manque une chose. Tu connais pas Jésus. Aïcha, elle n'était pas contente. Elle n'a pas du tout aimé ça. Et elle a répondu à son ami, mais pourquoi est-ce que moi je deviendrais chrétienne? Alors que nous, musulmans, nous savons que les chrétiens vont aller en enfer et que c'est nous qui avons la bonne religion. Son ami, il a été très sage et il n'a pas du tout essayé de lui tordre le bras pour qu'elle croie. Il lui a dit, écoute, lis le Coran, lis les hadiths, c'est-à-dire les dires et les faits du prophète, et puis lis l'évangile et tire tes conclusions. Et elle a été tellement piquée au vif qu'elle a décidé qu'elle allait faire ça. Elle a commencé de lire le Coran, les hadiths, et elle a lu l'évangile. Et c'était la première fois qu'elle lisait l'évangile. Et là, elle a découvert Jésus. Elle a découvert que Jésus, c'était un homme véridique, que c'était un homme plein de compassion, que c'était un homme juste. Et elle n'avait jamais compris cela auparavant et elle n'avait jamais vu quelqu'un qui soit comme cela auparavant. Et quelque temps après, elle s'est tournée vers Jésus. Et elle est devenue un disciple de Jésus. Voyez comment la grâce de Dieu agit. Et Je voudrais vous encourager à regarder tous les hommes autour de vous. Et les musulmans dont on parle tellement négativement autour de nous, j'aimerais vous encourager à les regarder avec les yeux de la grâce de Dieu. Car Dieu a payé cher pour eux. Dieu n'a pas limité son amour pour eux. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour eux. Et il ne faut pas que nous nous retenions ce que Dieu a voulu leur donner. Et vous verrez que des musulmans qui ont un cœur droit, qui cherchent Dieu, qui aspirent à connaître Dieu, un jour découvriront ou découvrent Jésus et disent « C'est lui que j'aime ». C'est à lui que je veux obéir. C'est avec lui que je veux vivre ma vie ici-bas. Et tout cela peut-être à cause d'un Nouveau Testament que vous aurez donné, à cause de quelques conversations, à cause de vos prières, à cause de l'œuvre magnifique et souveraine de Dieu sur la vie des hommes et sur la vie des musulmans qu'il aime passionnément. Amen. Amen.
Waouh, c'est intéressant, non? Une leçon d'histoire. Vraiment, merci de tout cœur, Christian. J'étais vraiment capté par ce que tu disais. Beaucoup de choses que je ne savais pas. Et j'ai trouvé que tu as résumé l'historique de l'islam d'une manière vraiment utile, vraiment, vraiment intéressante. Vous savez, j'ai rencontré un jeune homme ici à Genève, il y a quelques mois en arrière, qui est issu de familles musulmanes. Il a entendu l'évangile par certains de ses amis et aussi on a eu l'occasion de discuter. Il réfléchit aujourd'hui, il réfléchit sur si oui ou non il devrait croire en Jésus en fait. Il y a quelques temps derrière, il est venu me voir, il m'a dit « John, c'est incroyable !» Ah, j'ai dit « frisson à y penser !» Il a dit « J'ai eu un rêve et dans ce rêve, Jésus me portait. » Tu parlais de musulmans qui ont des rêves. À Genève, il y a des musulmans qui ont des rêves comme ça. Il réfléchit encore, prier pour ce jeune homme. Et je crois que lui et beaucoup d'autres à Genève se posent des tas de questions et s'interrogent par rapport à leur vie. Et Jésus-Christ, et c'est vrai qu'aussi en t'écoutant, Christian, ça m'a fait penser à ceci. Écoutez ces versets. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans Romains 3, 23, il est dit ceci. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est le problème de l'humanité. C'est notre péché. Nous sommes tous nés dans le péché. Et donc, nous offensons par nos vies, quelle que soit notre religion. Cela est vrai pour toute personne qui est née. Nous sommes nés dans le péché et nous offensons un Dieu saint. Donc, la question est celle-ci. Comment pouvons-nous vivre éternellement dans la présence d'un Dieu saint lorsque nous sommes pécheurs? Ça, c'est la question fondamentale. Il n'y a qu'une réponse. Qu'une réponse. Il ne faut pas être amélioré. Faire des bonnes œuvres, ça ne sert à rien. Parce que tu ne peux pas devenir parfait. Non, il ne faut pas être amélioré. Il faut être, attention, pardonné. Pardonné. Et voici ce que le texte dit. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça veut dire qu'ils sont gratuitement pardonnés, déclarés innocents par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Christ est mort et ressuscité des morts et par cela, il a pu pardonner une fois pour toutes tout notre péché. Et ça, c'est la différence, mes amis, entre Jésus-Christ et tous les autres. C'est que lui a vaincu la mort et il a vaincu le péché. Et lui seul peut te pardonner. Totalement. Demande-lui. Si tu n'es pas sûr de ton pardon, demande-lui tout simplement. Pardonne-moi. Et il le fera. Il le promet. Prenons 20 secondes de réflexion personnelle pendant que Flavius joue. Parlez à Dieu. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur.